Là. Voilà. Bonjour, chers auditeurs, auditrices, bienvenue sur Radio Judaïka dans l'émission Coach Ella. Vous êtes avec Nathalie Fabreau, coach en entreprise et coach de vie. Et vous êtes dans l'émission Coach Ella qui est diffusée les mercredis à 10h, rediffusée les jeudis à 15h30 et surtout disponible sur Spotify dans notre librairie Coach Ella. Si vous avez envie de la réécouter à un autre moment, dans des conditions peut-être plus calmes et confortables. Voilà, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer cette émission avec Monsieur Danny Gerbinet et de continuer l'émission précédente dans laquelle nous avions eu un échange passionné que je vais, voilà, je vais reposer dans un instant. Mais tout d'abord, Danny, comment allez-vous et comment arrivez-vous dans cette émission?
Oh ben, ma foi, je vais plutôt bien. Je vais épargner aux auditeurs le récit de mes problèmes. Et j'arrive dans cette émission, disons, le cœur ouvert.
Le cœur ouvert, d'accord. Bienvenue avec ce cœur ouvert. Et dans un instant, je sens que ce sera tout qui va s'ouvrir, le cœur, la tête, la créativité. En tout cas, c'est ce que nous avions vécu dans l'émission précédente. Et voilà, je vais reposer le fil rouge que nous avions amené dans l'émission précédente, car cette émission est la suite. Donc, dans l'émission précédente, nous avions voilà, ouvert la thématique de la systémique dans laquelle voilà, vous êtes expert, la thérapie systémique dans laquelle vous êtes expert, Dani. Vous êtes voilà, aussi bien thérapeute que formateur. Et venait la question de voilà, la systémique et l'impact dans l'environnement et le questionnement épistémologique qu'il y avait autour. Dans l'émission précédente, on avait voilà, posé cette définition de ce qu'est l'épistémologie et comment elle, voilà, comment elle est une question par rapport à notre relation au monde et notre perception du monde et des autres. Donc, c'est notre propre carte du monde que vous aviez présentée comme étant l'épistémologie avec un petit e, l'épistémologie avec un grand E qui est tout, voilà, tout l'héritage culturel de notre société qui est là et qui, quelque part, prédétermine des positionnements que nous pouvons avoir à nous-mêmes, aux autres et donc à l'environnement et au monde. Et nous avions notamment amené cette distinction entre être dans un état séparé et être acteur dans une relation et tout ce que cela peut amener comme questionnement et comme ouverture au niveau de l'épistémologie. Et nous étions tellement passionnés que nous avons vu finalement, voilà, nous avions exploré comment notre société a tendance à répliquer cette séparation dans le monde de l'organisation. Comment cet état de séparation fait partie des réflexes des personnes dans vos interventions hein, que vous aviez présentées dans les émissions d'avant. Et comment j'avais amené la dimension de et comment l'émotion, qui est une information que nous ne pouvons ne pas accepter ou prendre en compte, en tout cas dans le monde de l'entreprise, car il y a une volonté de bien séparer les éléments et de ne pas écouter l'émotion aussi, qui pourrait nous donner des informations utiles pour tout un système. Mais vu que nous préférons séparer les choses, nous préférons ne pas trop écouter cette information, même si elle est au service finalement de tout un système dans un système dans un système. Ceci est mon introduction, peut-être un peu alambiquée. Je vous invite à la corriger et je nous invite à continuer cette exploration aussi qui était sur le feedback et l'environnement et la réalité qui vous préoccupe. Mais allez-y, corrigez tout ce qui vient d'être dit pour la mettre à votre sauce aussi.
Je n'ai pas corrigé parce que ça me paraissait tout à fait clair. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de préciser un peu cette notion d'information, finalement, parce
Oui.
que, voilà. On parlait dans l'émission précédente d'épistémologie, comme vous l'avez rappelé, de ce que j'appelle, ou plutôt de ce que Bateson appelait des prémices épistémologiques, c'est-à-dire finalement certains fondamentaux de notre pensée. On avait vu qu'on utilise beaucoup le verbe être, qu'on est dans une forme de philosophie, de point de vue plutôt ontologique, où on a beaucoup développé une représentation du monde sur le fait qu'on est des entités séparées avec des caractéristiques propres, etc. Et c'est effectivement, quand vous dites, faites le lien entre la notion d'émotion et la notion d'information, je me dis, tiens, ce serait peut-être intéressant de définir un peu davantage cette notion d'information. Parce que cette notion d'information, finalement, c'est une des prémices sur laquelle se fonde toute l'approche de la thérapie brève stratégique et d'une certaine manière l'approche systémique au sens plus large. Et c'est une notion sur laquelle Bateson, ce chercheur, à partir des travaux duquel toute cette approche a été mise au point, c'est une notion, cette notion d'information sur laquelle Bateson finalement bâtit pratiquement toute son œuvre, qui prend un peu des aspects d'alternative face à la manière de penser dominante, en fait. C'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé, moi je suis thérapeute, j'exerce comme thérapeute et comme formateur. Et dans le domaine de la thérapie, par exemple, Bateson a tiré notre attention sur le fait que dans les approches analytiques, la prémisse sur laquelle se fondait toute les approches de type analytique, psychanalyse et ses dérivés, si je peux dire, est une prémisse énergétique. C'est-à-dire qu'on compare le psychisme à un réservoir d'énergie. Dit qu'on s'est fondé, que probablement les sciences molles comme la psychologie, les sciences sociales, etc., ont tendance à chercher une légitimité en se fondant sur les sciences dures. Et à l'époque, les physiciens notamment avaient inventé ou découvert les lois de la thermodynamique. Et une des lois de la thermodynamique affirmait que la quantité d'énergie dans le monde demeure constante. Et donc, il y avait cette idée que, il peut y avoir à certains moments des condensations d'énergie dans certains endroits de l'univers, d'autres où elle est moins dense, mais que dans l'ensemble, elle reste constante. Et ce que Bateson dit, c'est finalement les approches analytiques se sont emparées de ça pour faire une espèce de métaphore et ont comparé l'esprit humain à un réservoir d'énergie psychique. Et c'est un petit peu on a tous entendu parler, même si on n'a jamais lu ni Freud ni Bateson, on a tous entendu parler de pulsions, d'énergie psychique, on nous apprend à canaliser notre énergie, etc., etc. Et Bateson, lui, dit, en fait, on n'aurait peut-être pas dû se fonder sur la métaphore énergétique, qui est issue de la première loi de la thermodynamique. On aurait peut-être dû se fonder sur la deuxième loi de la thermodynamique, alors, qui dit que l'entropie tend vers un maximum. Je ne vais pas développer, parce qu'on va s'y perdre, et je ne suis pas sûr moi-même d'être clair dans le développement des conséquences de cette deuxième loi de la thermodynamique, mais elle mène à l'information, en fait. Et il dit, en fait, on pourrait aussi considérer l'esprit humain non pas nécessairement comme un réservoir d'énergie, mais comme, alors c'est un peu la métaphore à l'ordinateur, comme quelque chose qui traite l'information et qui y réagit. C'est-à-dire, vous me dites certaines choses, et donc pour moi, c'est de l'information. Donc, il y a une entrée d'information, d'une certaine manière, dans mon système cognitif, émotionnel, etc. Et je la traite en fonction de mon épistémologie avec un petit E, c'est-à-dire en fonction de mes croyances, de ma vision du monde, j'y accorde un certain sens, et puis j'y réagis, en fait. Et donc, tout ce qui nous fait réagir, ce serait plus cette notion d'information que cette notion d'énergie psychique. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec cette notion d'information, on introduit un concept qui, selon Bateson, manquait dans les théories psychodynamiques, à savoir ce fameux concept de feedback dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, si je suis juste mu par des pulsions, des déterminismes internes, etc., alors on peut tout à fait m'étudier ou étudier le comportement humain de manière séparée, isolée, etc., en se disant, mais voilà, on peut rendre compte de mon comportement comme une gestion plus ou moins adéquate de mes pulsions. Agressive ou sexuelle, etc. Avec ces, enfin, je caricature un peu, mais il y a quand même cette idée que voilà, il y a le ça qui est ce réservoir d'énergie à différencier, d'énergie, et puis le surmoi qui lui va juger aussi ses pulsions sont acceptables ou pas, et puis le moi qui va faire l'arbitre entre les deux. Et donc on a un point de vue qui est très intrapsychique finalement. Alors, et c'est aussi quelque chose qu'on ne questionne pas. Enfin, je vous parle de ça pour montrer l'importance des prémices épistémologiques
Épistémologique,
et le
tout
fait
à
qu'elles
fait.
sont le plus souvent inconscientes, en fait.
Oui.
Si on ne questionne pas ça, ben on trouve que c'est une manière de lire le comportement humain d'une manière tout à fait naturelle. Si, comme Bateson le fait, on questionne ça et on se dit, mais attention, là, on est en train d'expliquer le comportement humain d'une manière séparée, comme si on était des individus isolés, mus par des déterminismes internes. C'est pas comme ça que ça marche, dit-il. Si on étudie le comportement humain comme ça, on ne tient pas compte d'une caractéristique importante du vivant, qui est qu'on réagit à de l'information. Et donc, un exemple un peu amusant, il dit. Dans le monde des choses, cette histoire d'énergie, ça tient tout à fait la route. Il dit, on peut expliquer, il prend l'exemple d'une partie de billard, il dit, on peut expliquer le comportement d'une boule de billard sur un tapis vert par une transmission d'énergie. Si on connaît la force du coup de canne, son inclinaison par rapport au tapis, on peut tout expliquer du comportement de la boule de billard. Même si elle va heurter une autre, de nouveau, on pourra expliquer les choses par une quantité d'énergie transmise, etc. Donc, dans le monde du non-vivant, ça marche. On peut expliquer les choses par l'énergie. Voilà. Mais il dit, si on donne le même coup de canne à un chien, sauf si le coup de canne est suffisamment fort pour l'envoyer sur orbite, on ne va pas pouvoir expliquer son comportement juste par une quantité d'énergie transmise. En fait, le chien va peut-être fuir s'il trouve qu'on est trop menaçant. Ou il va peut-être réagir d'une manière agressive, si, voilà. Et donc il y aura un feedback en fait. Et ça,
Oui.
on peut en rendre compte si on part d'une prémisse informationnelle, et on peut difficilement en rendre compte si on part uniquement d'une prémisse énergétique en fait.
Tout à
Et donc
fait.
il reconstruit
Oui.
toute une vision de l'homme et de son rapport au monde sur base de cette prémisse informationnelle, et ça change tout. Parce que du
Absolument.
coup, au lieu d'être des individus isolés, séparés, mus par une énergie psychique et des déterminismes internes, on devient des individus reliés par
Reliés les uns
l'information
aux
à
autres.
laquelle on réagit, en fait. Et
Et
donc, on est tout à fait dans une autre vision du monde, dans une autre approche de la thérapie, bien sûr, puisque là,
ouais.
alors, on va considérer qu'il faut prendre en compte les informations qu'un individu reçoit pour comprendre sa problématique et donc peut-être son rapport à sa femme, à ses enfants, à son employeur, que sais-je, voilà, et plus largement son rapport au monde en fait. Et ça nous amène aussi à nous percevoir autrement, c'est-à-dire on n'est plus des petites entités individuelles en train de se balader comme ça dans l'univers, on est en relation permanente avec tout ce qui nous entoure. En fait. Et notre action sur ce qui nous entoure,
Ah, oui.
nouveau un feedback, nouveau, il y a ce que Bateson appelait dans un langage un peu intellectuel des processus récursifs, c'est-à-dire il y a un effet en retour de notre action. Et
Tout
je
à
pense
fait.
que cette position-là, ça nous conduit à davantage de responsabilités les uns par rapport aux autres et
Voilà.
aussi par rapport à notre environnement. En fait, je suis en partie responsable du feedback que je reçois de l'environnement parce que c'est moi qui l'ai induit par mon action.
Alors,
Voilà.
avant qu'on se lance dans cette voie-là, parce que là, je sens qu'on arrive, vous savez, c'est comme dans ces parcs d'attractions, on monte, on monte, on monte et on est sur un magnifique toboggan dans lequel on va, ouf, se lancer. Je souhaite vraiment appuyer ce que vous dites concernant cette notion d'information et de ce lien entre l'émotion et la dimension de la responsabilité, de l'interdépendance. Enfin, moi, j'amène la notion
Tout
d'interdépendance.
à fait, tout à fait. C'est au cœur du sujet.
Et c'est très intéressant. Enfin, dans le monde, de nouveau, vu que c'est le monde dans lequel je suis, le monde de l'entreprise, on n'arrête pas d'inviter. Donc, il y a comme une compréhension mentale sur pour avancer, pour tenir une organisation, pour atteindre des objectifs, pour intégrer du changement, nous devons porter cela ensemble. Et donc, il y a comme une compréhension mentale qui a une vision commune, une mission commune, une stratégie opérationnelle qui est commune. Et puis, il y a un moment magique où, même si tout le monde parle d'interdépendance, on constate une culture de compétition qui est justement dans cette segmentation dont je parlais dans l'émission précédente de si un problème, ça vient de où? C'est finance, c'est RH, c'est le manager et on cherche à trouver comme une étincelle qui va tout cristalliser alors que quand il y a une régulation ou une dérégulation, elle fait partie d'une circulation d'énergie et d'information portée par toutes les parties prenantes de l'organisation.
Tout à fait.
Et alors, en théorie, tout le monde dit, oui, on est pour la co-responsabilité, et en réalité, c'est chacun pour soi.
Ce que vous dites là, si je peux me permettre de vous interrompre et de réagir, ça me fait penser à une distinction qu'on fait parfois en thérapie brève entre le client et le patient désigné. Alors le mot client, évidemment, un petit peu, mais pas très joli à cause de ses connotations commerciales, mais au départ, on l'a utilisé pour essayer justement de sortir du modèle pathologisant. Parce que, voilà. Donc, pour nous, le client, c'est celui qui estime, c'est celui qui souffre le plus de la situation. Finalement, notre posture, nous, c'est de se dire, c'est d'ailleurs un des liens entre la thérapie stratégique et le bouddhisme, c'est le seul problème, finalement, c'est la souffrance, en fait. Et donc, notre job, c'est d'essayer de soulager la souffrance. Et donc, dans un système, une famille, mais ça peut être aussi une organisation, on va chercher quelle est la personne qui est la plus en souffrance et qu'est-ce qu'elle fait pour essayer de se débarrasser de cette souffrance, en fait. Quels sont ce qu'on appelle, dans notre jargon, les tentatives de régulation inadéquates, avec cette prémisse, encore une fois, qui est que si la souffrance persiste, c'est que ces tentatives de régulation sont inefficace d'une certaine manière, et donc on va chercher des alternatives. Mais il arrive souvent, ça c'est une vision des choses qui est propre à la thérapie stratégique, mais il arrive souvent que la personne qui est le plus en souffrance estime que c'est à quelqu'un d'autre de changer. En fait. On pourrait prendre l'exemple un peu facile d'un couple où monsieur boit beaucoup plus que de raison, etc., mais qui pour lui, c'est pas un problème en fait. Voilà, je sais pas moi, j'ai un couple comme ça en thérapie avec un jeune homme qui picole pas mal en fait. Mais pour lui, c'est normal en fait. Il a toujours fait la fête dans son milieu socioculturel. Voilà, c'est des choses qui se font. Tout le monde fait ça. Il fait le festo avec ses potes, etc. Et pour sa compagne, c'est dramatique en fait. Mais le décodage qu'elle va faire, c'est que s'il boit, c'est pas normal et donc c'est à lui de changer. En fait. Alors que des deux, celui qui souffre le plus de la situation, c'est plutôt elle. Et donc pour moi, en tant que thérapeute, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'elle met en place, elle, pour essayer de changer cette dynamique relationnelle, plutôt que de me centrer sur lui qui n'a aucune demande par rapport à moi, en fait, et qui trouve que son comportement est normal. Et j'ai l'impression que dans l'entreprise, il y a le même genre de phénomène, en fait. Il m'est arrivé de superviser des coachs, etc., et de me rendre compte que quelquefois, un N plus 1 peut être dans une situation douloureuse, parce que, je ne sais pas, parce que les objectifs, justement, ne sont pas rencontrés, etc. Estimer que c'est parce que son équipe ne fonctionne pas suffisamment bien, et donc de faire une commande d'intervention qui va être de dire, ben, faites en sorte que il y a un problème là dans mon équipe, faites en sorte qu'il soit plus performant, etc., etc. Ça peut mettre, enfin, vous êtes plus experte que moi en la matière, mais je me dis que ça peut mettre le coach dans une situation un peu difficile, parce que rien ne dit que l'équipe est demandeuse d'une intervention d'une personne extérieure, alors que le N plus 1, lui, voilà. Et donc, c'est ce N plus 1, la différence, en fait, entre la thérapie et le coaching, enfin, moi, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Sauf qu'une organisation, c'est un système plus complexe qu'un individu, un couple ou une famille, et qu'en plus, c'est un système hiérarchisé. Et donc, certains peuvent pratiquement contraindre d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement demandeuses d'une intervention à en être l'objet, en fait, ce qui, à mon avis, risque de générer pas mal de résistance. Donc, je trouve que simplement cette question à savoir, finalement, dans un système vivant, comme une famille, une organisation, etc., quelle est la personne qui est la plus en souffrance et souvent donc qui est la plus demandeuse d'un changement? C'est vraiment une question fondamentale, en fait. Ça modifie parfois complètement l'orientation d'une intervention. Voilà, je voulais réagir là-dessus.
Et j'aimerais juste appuyer votre propos avant de le ramener à cette notion de interdépendance et de feedback et de responsabilité que nous pouvons chacun porter vis-à-vis de nous-mêmes, des autres et de la planète. En coaching, notre plus grande difficulté, notamment quand nous sommes coach d'équipe, c'est qu'on vient vers nous pour en effet aller vers une équipe et que donc le mandat est vous êtes coach d'équipe et donc vous allez travailler avec l'équipe. Et notre challenge est de voir d'où vient la demande, qui a
C'est ça.
formulé la demande, quelle est la demande et souvent en effet la demande viendra d'une autre instance que de l'équipe et quand nous pouvons avoir accès à la demande de l'équipe, il est intéressant d'entendre alors que, en effet, l'équipe peut avoir d'autres besoins ou une non-demande. Et elle se sent même prise en otage par rapport à une demande de prise de responsabilité qui est en partie la sienne, parce que moi je parle du leadership collectif dans une équipe et pour moi le manager fait partie de l'équipe et il construit le leadership collectif, donc lui reste acteur de l'équipe. Et ça devient très très subtil en termes de mécanismes de régulation et de feedback dans l'équipe. Et en effet, ça permet alors à des remontées qui vont montrer d'où vient la demande et quel est en effet le besoin qui est à gérer. Excusez-moi, j'ai mis une minuterie parce que sinon dans cette émission, nous sommes embarqués. Et donc, c'est tout ce challenge, comme vous dites, qui, en fait, dans la relation, qui a quel rôle? Et quand vous amenez cette notion de souffrance, fondamentalement, l'être humain est en recherche de plaisir et en évitement de souffrance, dit certaines approches. Je crois que l'être humain, il a envie d'être vivant et il a envie d'être en joie. Enfin, c'est un postulat que j'amène souvent aussi dans le monde de l'entreprise en disant, votre batterie d'énergie, elle est dans la joie et elle est dans l'amour. Ce qui en choque pas mal, mais après, je leur explique ce que j'entends par ça. C'est pas l'amour bisounours, mais c'est le rapport d'interconnexion entre les humains. C'est cet échange, en fait, de régulation qui nous permet de nous sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir entendre les feedbacks qui circulent dans le système et devenir acteur et régulateur. Donc, par rapport à cette dimension, ce qui est juste hallucinant, c'est que nous sommes de nouveau en train d'arriver au début de la fin de l'émission. Et la question reste, comment sommes-nous acteurs par rapport à cet environnement? Donc, je vous donne encore un instant pour ouvrir ce chapitre et je sens que nous aurons encore d'autres émissions après pour continuer la discussion. Dany, voilà, je vous passe la main.
Écoutez, je suis ravi. En fait, encore une fois, je pense que ce qu'il est intéressant de mettre en évidence, c'est vraiment cette notion de relation, en fait. On le voit que ce soit, comme vous le disiez justement, je ne sais plus si c'est dans cette émission-ci ou dans une autre, Il y a la relation à soi, la relation aux autres et la relation au monde, en fait. Et je pense que si on prend soin, je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est prenons soin des relations, en fait. Je pense que c'est comme ça que probablement on a le plus de chances de trouver un fonctionnement harmonieux, le terme est peut-être un petit peu idéaliste, mais en tout cas un fonctionnement acceptable pour les différentes parties des systèmes dans lesquels nous ne sommes jamais finalement qu'un composant parmi d'autres. J'avais envie de laisser le mot de la fin à Bateson, si vous voulez bien, parce que
Oui,
lui,
volontiers.
justement, cherchait. Cet homme avait une quête qui était de comprendre justement les relations entre tous les êtres vivants et de revenir un petit peu sur peut-être le thème de l'émission précédente qui était plutôt centré sur la crise écologique. Je pense que il disait, pour lui, une des issues possibles, ce serait qu'on soit sensible à la beauté de ce qu'il appelait la structure qui relie tous les êtres vivants. La phrase que je voulais vous citer, peut-être pour conclure, puisque je me rends compte qu'on déborde encore une fois sur le temps, il explique que sa quête, c'était celle de la structure qui relie. Et il dit, quelle est la structure qui relie finalement le crabe au homard et l'orchidée à la prime verte? Et qu'est-ce qui les relie, eux quatre, à moi? Et moi à vous? Et nous six à l'amibe d'un côté et au schizophrène en interne de l'autre. Voilà. Vaste question, et j'ai l'impression que si on était plus sensible à la beauté de ces structures qui relient tous les êtres vivants, on aurait peut-être un autre rapport au monde.
C'est avec cette conclusion que nous allons terminer cette émission. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'émission Coachella sur Radio Judaïka et je viens de passer une demi-heure passionnante avec Monsieur Danny Gerbinet où nous avons abordé toute cette notion d'interdépendance les uns aux autres et nous avec le monde et nous invitons à cette réflexion et à cette exploration. Puisse-t-elle vous accompagner dans ce regard que vous portez sur vous-même et vous-même avec les autres et vous-même avec ce monde qui est pour le moment en train de nous donner beaucoup de retours, de beaucoup de feedback. Et Dani, je vous remercie infiniment et il y aura une suite à cela si vous êtes d'accord dans de prochaines émissions. En
C'est
tout
moi
cas,
qui vous remercie et
en
ce
tout cas,
sera avec
merci.
plaisir pour une suite.
Merci, merci infiniment d'être venu. Chers auditeurs, auditrices, cette émission est diffusée les mercredis à 10h, les jeudis rediffusée à 15h30 et surtout, vous pouvez la retrouver dans la bibliothèque Coachella sur Spotify où vous aurez la date et l'intitulé de l'émission. Et je vous remercie de nous avoir écoutés et puissiez-vous passer une bonne journée. Merci, Dani, en tout cas. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.